Donc, je tiens d'ores et déjà à remercier Hervé Pierre Lambert d'avoir bien voulu, au pied levé, à peine ses valises posées de retour d'Inde, de remplacer Michel de la Comté, qui était souffrant. Celui-ci nous a donné le titre pour le 10 mai prochain, Âge classique et identité de la France au prisme de portraits littéraires, ce qui nous permet d'attendre sa venue avec de l'intérêt. Pour l'heure, il s'agit de Jacques Reda, qui est mort en septembre dernier. Le bleu de juin, le bleu tendre, le bleu de cendre, qui déteint dans les yeux jusque sur les doigts, le bleu fait silence entre deux mésanges sur les toits. C'est par ces quelques vers de celui qui est revenu, comme Aragon, à, je cite, « adopter le système métrique » que j'introduis notre ami que je ne saurais trop remercier de sa bonne volonté et de sa disponibilité. Hervé Pierre Lambert a partagé son activité professionnelle entre l'animation culturelle et l'enseignement universitaire. Partage qui s'est passé, selon ses dires, dans un certain désordre et un déroulement hasardeux. Il a été en effet directeur de la maison de poésie, au tout début, quand elle était encore dans le trou des Halles, directeur de l'Institut français d'Amérique latine à Mexico et directeur du festival du Mont-Saint-Michel. Il a été conseiller culturel, scientifique et de coopération en Suisse et conseiller du festival Arts et Sciences au Centre national de la culture à Mexico. Il a enseigné à l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, dans des universités mexicaines, à l'université ex-impériale de Kyushu au Japon et à l'université des Antilles Guyane. Il est membre du jury du prix de poésie Alain Bosquet et de différents prix littéraires, dont le prix Roland d'Argelès et le prix Michel Thauriac. Parmi ses publications, on notera Octavio Paz, sur laquelle il a fait sa thèse, Octavio Paz et l'Orient, Jean Rizet, Claudine Elft et Guy Roussy ou La Sensation Cosmique. Et on lui doit également un texte poétique, Holocène pour mémoire. Je lui laisse la parole.
Bonjour. Alors, avant de commencer par la lecture, parce que j'aime bien qu'on commence en écoutant le poète, je voudrais simplement dire que c'est en écrivant le discours... Ah oui, je vais prendre le... C'est en écrivant le discours de réception du prix Bosquet à Étienne Faure pour son livre « Volant V », il y a 2 ans que j'ai été amené à relire Jacques Reda. En effet, l'œuvre d'Étienne Faure possède une parenté avec celle de Jacques Reda, elle en constitue une sorte de postérité. Et puis, la disparition de Jacques Reda en septembre 2024, à l'âge de 95 ans, a provoqué une relecture de son œuvre. Alors, écoutons tout de suite deux vues de Vaugirard qui sont tirées de Hors les murs, c'est un texte de 1982. Alors, l'un des intérêts de deux vues de Vaugirard, c'est que la deuxième vue est faite à partir de sa fenêtre, puisque la première localisation de Reda à Paris, c'était à Vaugirard. Après, ça sera vers Ménilmontant, mais il a vécu longtemps dans le 15e, donc dans le sud du 15e à Vaugirard, et c'est ce que nous allons entendre maintenant.
Rue des Nouettes, en contrebas du chemin de fer de Saint-Une, la maison de Kecker possède un jardin potager qu'elle laisse à l'abandon sous un amoncellement d'ordures resplendissantes le soir au bout des rayons allongés depuis les collines de Meudon parmi la viorne impure. C'est un de ces lieux de contemplation muette où les démons du non-agir, du non-vouloir et du sans-nom se font tendres et persuasifs comme des ravisseurs d'enfants. Ils m'ont amadoué jadis, encore trop léger pour entendre le grelot dépravé qui teinte sous leur petit sermon. Mais je ne les crains plus, car ma tête a rencontré l'espace et ses modulations de nuages en cœur majestueux où commence à tourner la roue d'un dieu bénin qui passe à vélo pour que cet instant doré se perpétue. Eux, alors, se font s'enfuir sous un lierre courbi le fond de cette impasse ou se dissimulent dans les brasseries désertes des environs. Je ne conseille pas aux simples dilettantes de les suivre. Gare à ceux qui, sous la passerelle obscure, s'attarderont. Le ciel, où s'illustra Farman, devient d'iris et de cuivre dans les branches du boulevard qui sort, brille l'hiver, vieux clairon.
Le 2 également.
Ouais.
Rue de Rennes.
Ah non. Non, le deuxième, la deuxième vue de Vaugirard.
Page 28.
Qui est vue à partir de sa fenêtre.
Ma fenêtre ouvre au nord, jardin de mousse et de ciment. Des arbres japonais dessinent avec talent jusqu'à midi contre l'hiver doré. Puis l'ombre tourne avec ses sacs de charbon sur la tête et les anges tournent sous un soleil apoplectique entre les toits fumeux. C'est l'hiver noir, suivi des gens sans mémoire et sans feu, qu'on voit se hasarder au fond des couloirs du dimanche. Le vent arrache un dernier lambeau de ciel pervenche et, le temps de l'écrire ici, déjà, rose, lilas, gris de journal dilacéré par les brefs pugilats qui, près des abattoirs, laisseront la lumière sans connaissance. Un rayon sourd filtre sous sa paupière pour atteindre, malgré la nuit dont croit la pesanteur, rue Santos Dumont, ce mur pâle et pacificateur, comme l'oubli quand, s'appuyant sur les taureaux de fonte, la lune entre aux objets perdus par la fenêtre et compte.
Alors, Jacques Reda est né en 1929 en province, à Lunéville, dans une famille d'origine piémontaise et bourguignonne. Reda, c'est un nom d'origine italienne. Reda. Dans un récit biographique qui s'appelle « Aller au Mirabel », texte donc tardif de 1991, il évoque l'ancien magasin de son grand-père, originaire du Piémont, qui fabriquait des vélos. Je ne sais pas s'il y a un lien entre le grand-père qui fabrique des vélos et puis lui qui faisait du vélo, mais enfin voilà. Les vélos s'appelaient les vélos Reda jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et dans un poème des ruines de Paris, il écrit, je cite, « J'ai vécu mon enfance dans l'odeur du métal qu'on brase et du frais caoutchouc. » Alors, dans cette ville de garnison, les fanfares lui ouvrent une sensibilité musicale, puis c'est au tour du plein chant, entendu dans un collège jésuite d'Évreux, où il fait ses études, il a fait ses études chez les jésuites, pendant la guerre. Mais le grand moment de découverte musicale a lieu en 1944 à la Libération. En 1944, il découvre à la radio le jazz, seule musique, écrit-il, je cite, « faite pour son cœur et ses nerfs ». On va revenir évidemment sur ce thème. Après son service militaire et des études inachevées de droit, il s'installe à Paris en 1953. Il exerce divers petits métiers, comme magasinier chez Segers, et commence à publier dans des petites maisons d'édition. Il exerce toutes sortes de métiers administratifs, employé de bureau, je cite, « occupé par un travail administratif qui laissait une grande liberté d'esprit pour écrire ». Son premier texte, « Les inconvénients du métier », paraît chez Segers en 1952. Il va renier de toute façon toutes ses publications. À partir de 1953, Jacques Reda parcourt les rues de Paris, à pied, à vélo, en solex. Et chroniqueur de jazz, il va collaborer régulièrement avec Jazz Magazine à partir de 1963. Alors, en 1968, il publie « Amen » dans la collection « Le Chemin », dirigé par Georges Lambrich chez Gallimard. Ce volume obtient le prix Max Jacob et inaugure vraiment son œuvre. Donc 1968, Amen. Avec Récitatif, 1970, et La Tourne, en 1975, toujours dans la même collection, se forme ainsi un triptyque qui sera repris en 1988 dans la collection Poésie Gallimard. Donc, entre 1968 et 1975, il publie trois recueils à la tonalité élégiaque, Amen, Prima Jacob, Récitatif et La Tourne. Mais c'est avec la publication des Ruines de Paris, en 1977, donc 1977, que commence véritablement un nouvel ensemble, une nouvelle époque qui va durer des décennies. Et c'est là, avec les ruines de Paris, qu'il va imposer son image. Avec Ruines de Paris, il s'agit maintenant non plus de vers, mais de poèmes en prose. Cette marque de fabrique, avec le temps, deviendra davantage une prose poétique, mais l'œuvre en vers ne sera jamais abandonnée. Il devient lecteur chez Gallimard en 1978. Il rejoint le comité de lecture de la maison d'édition en 1983. Puis, il est choisi par Georges Lambrich, qui a des problèmes de vue, pour le remplacer comme rédacteur en chef de la NRF, la Nouvelle Revue Française, et c'est une fonction qu'il va occuper de 1987 à 1995. Il sera le sixième directeur de la publication, alors mensuelle, à la suite de Jacques Rivière, Jean Paulhan, Pierre Drieux-La Rochelle, Marcel Arlan et Georges Lambrich. Après 100 numéros en 1995, constatant que, je cite, « le règne des revues littéraires avait touché à son déclin », il abandonne son poste. Et en 1997, il reçoit le Grand Prix de poésie de l'Académie française. Voilà, résumé très brièvement le début de sa carrière, j'ose dire. Et abordons maintenant un autre thème qui est l'une de ses activités majeures, sinon sa passion majeure, qui est le jazz. Il collabore pendant plus de 50 ans à Jazz Magazine. Il confesse dans le journal Le Monde en 2017, je cite, « une toxicomanie musicale, une passion pour le battement ». Et il écrit des écrits sur le jazz dans « Autobiographie du jazz » en 2002, « Une civilisation du rythme » en 2017. C'était une lettre de protestation envoyée à Jazz Magazine à propos d'une critique qui lui vaut, en réponse, en 1963, d'être invité à rejoindre les collaborateurs du mensuel. Il y fait ses gammes, il écrit, je cite, « le journalisme dégourdi, permet d'écrire beaucoup de prose, un exercice dans lequel je ne me sentais pas à l'aise. » Et Jacques Reda précisait, je le cite, « je n'aime pas que le jazz, mais il n'y a que le jazz qui puisse me donner ce qui précisément le constitue, c'est-à-dire le swing, en tant que métamorphose en danse du mouvement de la marche. La plupart des grandes œuvres du jazz reposent sur un tempo qui peut osciller de celui d'un pas très vif à l'allure d'une promenade. Le paragon absolu à cet égard me semble être le Body and Soul de Coleman Hawkins. Est-ce que je danse quand je marche? Est-ce que mon pied d'appui accuse plus particulièrement le temps faible comme pour essayer de swinger? Quelquefois, peut-être. » Alors, à propos de cette version canonique de Body and Soul, il écrivait ainsi dans les colonnes de Jazz Magazine en juillet 1969, et je le cite parce que c'est un exemple de l'écriture de Reda comme critique de jazz, donc je le cite, « et il me plaît que ce chef-d'œuvre de Hawkins, qui se trouve être aussi l'une des sept ou huit merveilles du jazz, autorise à parler de l'âme un peu plus gravement que ne l'eussent permis, sans lui, le titre et même la mélodie de cette chanson sentimentale. Bien loin d'ailleurs que le end de Body and Soul suggère une distance, une opposition, il joue un rôle très actif et profond de conjonction vraiment copulative, et la musique de Hawkins en son meilleur point d'équilibre, comme celle de ses pairs, énoncera toujours le balancement intérieur de cette indissociable alliance. » Reda donc a beaucoup publié sur le jazz, d'abord et avant tout une anthologie du musicien de jazz, publiée chez Stock en 1981 et rééditée en version revue augmentée en 2002 sous le titre « Autobiographie du jazz ». Le livre sur le jazz L'improviste est publié en 1980 chez Gallimard et une nouvelle édition augmentée de l'ouvrage rassemblant en un seul volume les deux livres parus dans la collection Le Chemin. L'improviste 1980 et Jouer le jeu, l'improviste 2 en 1985 et tous ces textes ont été pour la plupart publiés dans une première version des Jazz Magazine entre 64 et 2009. Et il écrit également Une civilisation du rythme en 2017 dans la collection musique de Boucher-Chastel avec un CD. Alors, Dans ce livre, il suit les pas de quatre grands artistes, Fletcher Anderson, Duke Ellington, Jimmy Lunsford, Count Basie, dont de larges extraits de leur musique figurent sur ce CD qui accompagne le livre. Redda met en lumière ce qu'il considère comme le sommet du jazz, les big bands des années 1930 et 1940. Il montre que cette musique est non seulement bonne à entendre, mais aussi bonne à penser, pour reprendre son expression. En effet, Redda fait de, je cite, cet événement capital du XXe siècle, selon le mot de l'écrivain Jacques-Albert Singria, l'un de ses auteurs préférés, on va y revenir, une figure du rapport de l'homme au temps. Entre la fixité du blues et le mouvement du swing, le jazz devient l'expression collective de l'humaine condition. Ainsi, les quatre grands artistes du jazz étudiés par Redda, ceux que je viens de citer, annoncent la bonne nouvelle. Cette musique de l'émancipation, née de la foi et de l'esclavage, mais emblématique d'une modernité transatlantique dont les racines se partagent entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Alors évidemment, la question qui se pose pour nous, c'est y a-t-il un rapport chez lui entre la poésie et le jazz ? La plupart des spécialistes de Redda n'ont pas sa culture jazziste, d'ailleurs c'est très difficile de l'avoir, ou même pas de culture de jazz du tout. Alors je vous rassure tout de suite, on peut même ne pas aimer le jazz et aimer Redda. A priori, quand même, comment concilier critique poétique et culture ou non-culture jazzistique ? Y a-t-il lieu de comprendre sa poésie à la lumière du jazz ? À vrai dire, cette double compétence n'est pas nécessaire. Redda n'écrit pas de la poésie en jazzman. Il n'essaie pas d'appliquer des rythmes analogue à cette musique dans son écriture. Il ne fait pas swinguer sa poésie. Pas d'influence, pas d'importation rythmique donc. Et d'autre part, les références au jazz restent discrètes dans l'œuvre poétique. On va le voir. Quelques souvenirs autobiographiques dans l'herbe des talus, quelques clins d'œil dans Ruines de Paris, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, ainsi dans le choix des titres, Basse ambulante pour un chapitre et quelques références. Et nous allons justement entendre en deuxième lecture Rue de Rennes, page 69-70. Donc là, nous sommes dans les ruines de Paris, 1977, le fameux livre à partir duquel Redda est, si j'ose dire, définitivement enfin Redda. On verra ce que ça veut dire, bien entendu.
Rue de Rennes, un disque de Bud Powell en réédition japonaise. Pourtant, je ne l'écouterai pas ce soir, ni sans doute même demain, mais à tel moment où j'aurai du moins l'illusion d'avoir droit à ce pathétique, où j'en aurai besoin pour me rappeler à quel point l'homme peut être innocent, démoli. Je songe à « It never entered my mind » de Bud, si proche avec son vacillement de dernière extrémité du choral « Erbarm dich mein » ou des leçons de Jacotet. En somme, et sauvant jusque dans ce malheur l'espoir incapable de comprendre. Mais je n'en dirai pas plus. En dehors de ce Powell qui me semble inévitable, il y a de quoi dans les bacs se torturer durant des heures ou se ruiner d'un seul coup. C'est au moment de choisir une si profonde incertitude que je me détermine par une espèce d'émulation. Je pense à Berg. Je me demande si Berg, vrai sanglier de ces Vosges, pour le flair et la promptitude, a déjà eu vent, par exemple, de ce Bill Perkins.
Alors, on ne sait pas qui est Berg, en fait. Un ami à lui, mais on n'en saura pas plus.
Car enfin, quel plaisir, si on se téléphone, d'introduire comme négligemment une incidente du style. Tiens, au fait, j'ai trouvé un Bill Perkins, tu sais. L'octet, il n'est pas mal. J'entends Berg qui produit un effort de sanglier pour que je n'entende pas qu'il s'étrangle, et je devine ce qui va se passer, le temps de raccrocher. Il franchira d'un seul bond puis son bataclan de batterie et les 12 mètres de sa terrasse, projetant une immense ombre saxienne au nez crochu contre le mur. Je me propose d'aller lui peindre un jour la fameuse ligne bleue avec sapin, schlourte et ballon d'Alsace. Par chance, Berg habite au premier. Il atterrit sans mal en face, au-dessous d'une enseigne qui peut se lire « Tijan ». Quand on a comme Berg et moi pour Kerouac et le jazz West Coast et Bud et des centaines d'autres, une folie.
Alors, pour donner un autre exemple de ces clins d'œil au jazz, dans son œuvre poétique, toujours dans Ruines de Paris, l'auteur, à un certain moment, transporte à vélo, je cite, « la grosse boîte qu'un sandeau arrime derrière ma selle, et où je transporte en fait des lettres, des brouillons, des élastiques, des disques rares et coûteux de Sonny Clark ou d'Eddie Costa. » Alors, pour le lecteur, un culte du jazz, libre à lui de se renseigner. Le premier poème en prose de Ruines de Paris, Le pied furtif de l'hérétique, ça s'appelle Le pied furtif de l'hérétique, s'achève sur une référence jazzique. Après une longue marche dans Paris, notamment la traversée de la place de la Concorde, puis la rue de Babylone, l'auteur arrive chez lui, au sud du 15e. Et alors je cite, « Je rentre. Il y a des œufs, du fromage, du vin, beaucoup de disques, grâce à des boutons. On peut mettre en valeur la partie de la contrebasse. Ainsi, je continue d'avancer, pizzicato. Est-ce que je suis gai? Est-ce que je suis triste? Est-ce que j'avance vers une énigme, une signification? Je ne cherche pas trop à comprendre. Je ne suis plus que la vibration de ces cordes, fondamentalement tendues, comme l'espérance pleine, comme l'amour. » Donc là, en ayant cité par trois fois des références jazziques dans Ruines de Paris, j'ai quasiment fini de citer toutes les références jazziques dans Ruines de Paris. Donc comme vous le voyez, elles restent quand même assez limitées. Pour Reda, la musique et la littérature sont deux mondes séparés. Leur dialogue est difficile et il écrit même, je cite, « La musique se refuse à dire quoi que ce soit. Le sens de la musique est inexprimable parce qu'il est excessif. » Alors après cette, ce rappel de la musique et la littérature chez Reda, du jazz et de la littérature et de la poésie, voyons le tournant que sont les ruines de Paris. Comme je l'ai dit, les ruines de Paris sont le tournant majeur de son œuvre. Les ruines de Paris paraissent en 1977 chez Gallimard, dans la collection du chemin, où Reda avait déjà publié ses premiers textes officiellement reconnus, Amen, récitatif, la tourne. C'est donc sans doute le livre le plus important de l'auteur, qui est aussi dans la petite collection blanche, là, la pierre de fondation d'une part majeure de son œuvre. Ce livre est son premier à avoir été écrit en prose également. Et il inaugure une longue série sur Paris, la banlieue, la province et puis l'étranger, tout lieu accessible à pied, en motocyclette ou en train. Reda ne prend jamais l'avion et très peu le TGV. Il est adepte des moyens de transport lents, favorables à la rêverie. Avec Ruines de Paris s'impose chez Reda l'image de l'errance urbaine. Ce livre inaugure une série d'ouvrages comparables ou analogues qui constituent une véritable postérité aux ruines de Paris. Cette liste comprend de manière non exhaustive, alors le fameux « Hors les murs » de 1982, qui est « Hors les murs », donc c'est surtout pour la banlieue, mais au début, comme on l'a vu, il y a des textes sur Paris elle-même. Nous avons « L'herbe des talus » en 1984, « Beauté suburbaine » en 1985, « Le château des courants d'air » en 1986, « Le sens de la marche » en 1990, « La liberté des rues » en 1997, « Le méridien de Paris » pareil, 1997, donc 20 ans après les ruines de Paris, « Accident de la circulation » en 2001, Le 20e fatigue en 2004, alors un style très quand même un peu différent là, parce que on est plus proche même de la prose tout court que de la prose poétique, et un ouvrage un peu plus étrange, mais enfin on y reviendra. Alors les ruines de Paris, le titre fait écho à un autre recueil de poèmes en prose, évidemment c'est celui de Baudelaire. On peut toujours penser au spleen de Paris de Baudelaire avec la symétrie des titres, le genre du poème en prose, mais aussi ce témoignage mélancolique des transformations de Paris, ça s'appelle quand même les ruines de Paris. Qui sont en fait avant tout les ruines du 15e qu'il voit transformer avec le front de Seine, et puis aussi des ruines à Belleville. Les textes dans ce recueil vont de 1 à 3 pages au maximum, alors que par la suite, ils seront beaucoup plus longs, allant de 5 à 10 pages, plus tard, ainsi dans La liberté des rues de 1997. Et puis l'auteur, au fil du temps, va de plus en plus passer du poème en prose, qui est évident dans Les ruines de Paris, à une prose poétique uniquement. Et à 94 ans, il chantait encore Les tilleuls de Port-Royal ou Les merles parisiens dans Le son de l'arbre et du vent de 2023, qui est son dernier recueil, Le son de l'arbre et du vent de 2023. Mais cette errance urbaine, en prose poétique, ou parfois en vers, mais enfin très peu, commencée avec Les ruines de Paris, ne constitue pas l'ensemble de son œuvre. Il serait abusif, en effet, de réduire Reda à cela, car il existe d'autres pans de son travail. Mais écoutons pour le moment, dans Les ruines de Paris, ce qui me plaît dans la rue des Pyrénées. Donc c'est page 91-92, lecture 3, ce qui me plaît dans la rue des Pyrénées.
Ce qui me plaît dans la rue des Pyrénées, c'est d'abord qu'elle monte et qu'elle tourne. De tronçons en tronçons qui paraissent rectilignes d'après les plans et qui finissent par dessiner un immense arc de cercle de la porte de Vincennes à Belleville par Ménilmontant. Au palier de la place Gambetta, on présume qu'elle s'arrête, mais sans aucune trace de fatigue ensuite, elle repart, au contraire, même plus fraîche, balancée dans les acacias. Et en second lieu, ce sont ces arbres frémissants qui m'attirent. Des platanes ou des marronniers iraient ici moins bien, mieux fait pour établir la paix d'une esplanade et l'équilibre d'un square de guingois, alors que ce long frisson se diffuse dans l'altitude qui vibre et dans le ciel armicelait parmi les branches sur le trottoir. Un square d'ailleurs existe, secret, en surplomb de la rue, accessible par des marches qui enveloppent les buissons du talus, fermé à l'opposé par l'angle sud-est du Père-Lachaise, et si bien garanti de toutes parts, ainsi dans la hauteur, sa configuration me suggère un sens initiatique, de toute évidence non voulu, mais tangible, à plus forte raison vers midi, quand c'est vide. Si j'accepte un petit camion jaune oublié sur mon banc par un gamin. Donc, ces haltes occasionnelles dans de tels lieux m'initient, je ne saurais nettement dire à quoi. Car si je ne succombe à de l'extase, bien sûr, ni je ne médite, je plane dans une sorte de stupeur. Et bien à l'instant où même mon œil encore lucide déserte, n'étant plus attaché par rien dans ce corps tout en brouillard, mais ouvert du côté de l'espace plus dense qui l'assimile, qui va me révéler du dehors qu'elle rend le cul dans son savoir, je sens en effet qu'on m'observe avec trop d'insistance. Il est temps de partir, non sans avoir remis en place le petit camion jaune que je manipulais distraitement et dont le propriétaire, revenu pendant que j'étudiais ma syncope, se demandait comment faire pour le reprendre à ce grand mabou.
Alors donc, quels sont les autres aspects de l'œuvre ? Jacques Reda a écrit de nombreux hommages à des écrivains et artistes en général contemporains qu'il admire, de Pierre Alechinski à Pascal Quignard, de Charles-Albert Saint-Grilla à Cavafy. Alors que ce soit dans La Sauvette, un livre chez Verdier en 1995, ou dans les quatre livres successifs qui s'appellent Les livres des reconnaissances chez Fata Morgana en 1985, 92, 2016 et 2021. La Sauvette, donc paru en 95, est un recueil de 46 aperçus sur des poètes allant d'Apollinaire à Valéry, dans l'ordre alphabétique, et pour la chronologie de Mallarmé à Jules Stéphan. Dans les deux premiers livres des reconnaissances, parus de 85 à 92, Jacques Reda exprimait sa gratitude à l'égard de ses pères et maîtres écrivains, d'Ovid à Bachot, de Saint-Grilla à Quignard, dans des hommages en vers se jouant de la métrique. Le tiers livre des reconnaissances, donc le livre 3 des reconnaissances, est consacré entre autres à Lucrèce et Nerval, mais aussi à des poètes contemporains, amis, Audiberti, Goffet, Grosjean, Tardieu. Dans un autre livre qui s'appelle « Mes sept familles », paru donc là, c'est très tardif, en 2022, ce livre présente un hommage à sept écrivains qui ont, selon lui, influencé l'auteur, qu'il considère donc comme membre d'une famille d'adoption ou d'accueil littéraire. Ces écrivains, tous plus ou moins de la génération de son propre père, sont Jean Follin, André Fresneau, Roland Gaspard, Jean Grosjean, Louis Guillaume, Francis Ponge, Jean Tardieu de nouveau, Raymond Queneau. Dans cet ouvrage, « Mais cette famille », donc paru en 2022, l'ouvrage de la fin de sa vie, dans cet ouvrage, Jacques Reda propose des portraits détaillés et des analyses poétiques de ses auteurs, soulignant leur importance dans l'histoire littéraire de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. Jacques Reda a publié chez Fata Morgana « Celle qui vient à pas léger », c'est le nom du livre, illustré par Pierre Alechinski. Et cet ouvrage, publié pour la première fois en 1985, réunit 8 textes, essais ou poèmes qui avaient été publiés déjà dans la NRF. Alors, comme le suggère le titre d'un autre recueil autoportrait, publié en 2010 chez Fata Morgana, ces portraits d'écrivains et artistes constituent autant donc d'autoportraits. Je cite. Car c'est toujours un peu de soi que l'on peint lorsque l'on tente de décrire les autres ou de les deviner. Peut-être leur emprunte-t-on aussi de quoi flatter le portrait que l'on ébauche, alors inconsciemment de soi-même. Alors, dans ce recueil autoportrait de 2010, nous avons Alechinski, Bergougnou, Follin, Lambrich, Michon, Munier. Donc, une activité importante de critiques sur des écrivains et des artistes. Mais autre chose encore, Jacques Reda, à partir des années 2000, donc là, fin de carrière si j'ose dire, développe une nouvelle inspiration, totalement différente, autour de la science et en plus avec un retour à la versification. Il publie ainsi 5 volumes qu'il nomme « La physique amusante », l'ensemble relevant de la poésie scientifique avec un certain humour. Donc ce dernier ensemble poétique de Jacques Reda se distribue dans les 5 volumes qu'il nomme « La physique amusante », paru chez Gallimard. Alors le premier tome « La physique amusante » en 2009 est suivi par « La lettre aux physiciens », la troisième tome, La nébuleuse du songe, en 2014, puis Le tout, le rien et le reste, et enfin Rythme, chaos, mythologie, la physique amusante, numéro 5. Alors, nous allons lire un bref extrait, parce que c'est gigantesque, de La nébuleuse du songe, qui montre donc comment est née une naine blanche.
Mais l'univers contient d'autres fameux tableaux. Et sans quitter le sort de cette naine blanche, que devient un soleil? Voyons quelle revanche elle prend quelquefois, quand elle fut d'abord la compagne d'une autre étoile, et que sa mort laisse la veuve encore active, inconsolée. Celle-ci se répand en brûlante coulée sur le cadavre cher à peine refroidi. Et miracle, bientôt, il se désengourdit, se réchauffe à tel point et gonfle en telle sorte que sous son propre poids que plus rien ne supporte, excepté l'eau centrale composée de neutrons. Tout sait, pense-t-il, seul nous récalcitrons. Il s'effondre et va rebondir sur cette enclume où, se désintégrant en entier, il allume au fond du ciel des feux d'artifice inouïs. Les Chinois, vers l'an 1000, en furent éblouis. La constellation du crabe s'est formée de ses débris. Il eût dérouté Ptolémée. Un astre d'un effet aussi mirobolant incendia le nuage de Magellan. Voici peu, c'est-à-dire, en chiffres sublunaires, environ 172 millénaires. Compte tenu du temps que la lumière met, à descendre en courant pourtant d'un tel sommet.
Alors là, vous avez entendu donc le grand écart entre la rue des Pyrénées et la nébuleuse du Crabe et la nébuleuse du Songe. Donc, une inspiration totalement différente, cette fois qui se veut scientifique, cosmologique. Alors, on aime, on n'aime pas, c'est très différent. C'est pas le Reda, disons, tel qu'en lui-même l'éternité le change. Hein, c'est pas l'image du Reda tel qu'on la garde, en fait, véritablement. Alors, j'ai dit une activité critique. J'ai dit donc également le dernier ensemble poétique, mais il y a encore un autre aspect de son œuvre. Il avoue une ambition de jeunesse qui était de devenir romancier. Je cite « J'ai écrit peut-être 50 débuts de romans, puis un jour j'ai tout flanqué à la Chaudière. » Et c'est par raccro, c'est ce qu'il dit, qu'il serait devenu poète, inspiré par Claudel, Supervielle ou d'Adelson. Mais beaucoup plus tard, il s'essaie quand même à la fiction. Et on a donc des essais romanesques, on a Les Fins Fonds chez Verdi en 2002, Aller au Diable, Gallimard Collection Blanche en 2002 toujours, Nouvelles Aventures de Pelby, roman chez Gallimard en 2003, et de nouveau chez Verdier pour l'affaire de Ramsès III, roman 2004, partie de son œuvre qui reste quand même peu connue, assez clandestine à vrai dire. Alors, pour revenir au Reda tel que l'image en est gardée de l'errance urbaine, voyons maintenant justement un peu plus dans le détail en quoi ce trajet, ce projet s'inscrit en fait dans une tradition. Reda s'inscrit dans une lignée, une tradition. On pense bien sûr à Léon-Paul Fargue, avec ses D'après Paris en 1931 et surtout bien sûr son Piéton de Paris en 1939, réédité en 1993, mais qui se présente moins comme de la poésie, à vrai dire, que comme des chroniques et des essais. Et puis, on va assister, et on assiste encore aujourd'hui, à la publication de textes de Léon-Paul Fargue, qui sont, si j'ose dire, très rédiens. Les 20 dernières années, des textes sont publiés de Léon-Paul Fargue, qui renforcent donc ce thème de Paris, ce thème de la ville déambulée. J'en cite simplement quelques-uns, parce qu'il y en a une dizaine, à vrai dire, de textes de Léon-Paul Fargue qui ressurgissent. On a Charme de Paris en 2003 chez Fata Morgana. On a Merveille de Paris chez Fata Morgana en 2009. On a Autre piéton, rêverie d'une mémoire solitaire en 2010. Et puis, on a L'Esprit de Paris, le dernier, en 2020 pour le moment, le dernier, aux éditions du Centre. Reda, donc, trouve sa place aux côtés d'autres grands piétons de Paris. Léon-Paul Fargue, Jean Follin, on va y revenir, puisqu'il l'admirait particulièrement, Henri Calais. Henri Calais, moins connu peut-être. En juin 1947, Calais entama la rédaction d'un ouvrage sur Paris qu'il poursuivra durant un séjour effectué en Algérie en compagnie de son ami l'écrivain Francis Ponge. Donc on est quand même dans une famille là. Et l'ouvrage va s'intituler « Aux 20 arrondissements ». Et va paraître l'année suivante chez Gallimard sous le titre « Le tout sur le tout » et c'est réédité chez Gallimard en 2003. Donc Calais, mais surtout Saint-Gria et Follin. Il a beaucoup écrit sur Saint-Gria et Follin. Alors Charles-Albert Saint-Gria, 1883-1954, je le rappelle rapidement, est un écrivain suisse, à la fois grand voyageur à pied et à vélo, et spécialiste du jazz. Donc les deux mêmes thèmes que Reda. Saint-Gria est donc une figure d'identification pour Reda, les rapproche donc l'amour du jazz, la figure du cycliste vagabond, hein, deux grands cyclistes qui circulaient d'ailleurs aussi bien à pied qu'à bicyclette. l'auteur français s'est inlassablement voué à la défense de l'œuvre de Saint-Grilla. Les idées de Saint-Grilla sur le jazz ont influencé Jacques Reda. Saint-Grilla a été l'un des auteurs fétiches de Reda, qui a souvent donc cité ses travaux dans ses propres écrits, notamment dans son essai L'improviste. Dans son livre sur le jazz, L'improviste, donc, eh bien, Reda cite en exergue la formule de Saint-Grilla sur le jazz, je cite, « cet événement capital dans notre époque ». Saint-Grilla considérait le jazz comme un retour à la musique médiévale, le reliant à des formes musicales anciennes telles que le chant grégorien, et il a critiqué la musique écrite entre la Renaissance et le début du XXe siècle, bon, vaste domaine, qu'il jugeait trop subjective et a vu dans le jazz une résurrection de pratiques musicales plus authentiques. Alors donc Reda a exprimé une admiration profonde pour Saint-Grilla, le qualifiant même du plus grand écrivain du XXe siècle, pour citer Reda sur Saint-Grilla, le plus grand écrivain du XXe siècle. Et Reda a intégré des éléments de la pensée de Saint-Grilla dans sa propre approche du jazz, le décrivant donc comme un trobar afro-américain. Son livre, Le bitume est exquis, chez Fata Morgana de 1984, 30 ans après la mort de Saint-Grilla, est une étude élogieuse de l'auteur suisse, et un autre livre de Reda, Les 5 points cardinaux, un livre de 2003 chez Fata Morgana, inclut un texte récemment découvert de Saint-Grilla, Entrée des sangliers. Comme je l'ai dit en introduction, cette lignée de la déambulation poétique, et particulièrement dans Paris, est continuée aujourd'hui par Étienne Faure, comme dans La vie bon train, prose de gare en 2013, et puis Prendre l'air, poème en prose de 2020, Volant V de 2022, et le dernier qui vient de sortir, qui s'appelle Série parisienne en 2024. Alors, il y a un autre livre assez étonnant de Thomas Clerc, aux éditions de Minuit, qui s'appelle Paris, musée du 21e siècle, 18e arrondissement. Ça vient de sortir il y a quelques mois. Il y a eu un prix, Webler, Fondation La Poste. Il avait déjà publié aux éditions Gallimard Paris, musée du 21e siècle. Et bon, j'hésite à le mettre comme dans l'héritage de Reda, mais néanmoins, ça peut l'être. Là, dans Paris, musée du 21e siècle de Thomas Clerc, il traite les 425 rues, aucune ne nous échappera, du 18e arrondissement, square, place, avenue, cité, jardin, villa, boulevard, impasse et passage, que Thomas Clerc a entrepris d'arpenter. Description donc totale, assez ennuyeuse à vrai dire, née de ces déambulations, dérives et notations, donc qui s'inscrit dans cette tradition, si on veut, hein, mais qui est plus proche du catalogue que de la prose poétique. Alors nous allons lire dans les ruines de Paris un passage qui parle justement de cette fois de Follin. J'ai dit que Follin est le deuxième auteur le plus proche de Reda, enfin c'est une proximité que Reda revendique, après ou avec Saint-Grilla.
Je n'ai qu'à traverser pour entrer dans la minuscule crèmerie de la rue de Grenelle, songeant toujours à Saint-Grilla, et de fil en aiguille à Follin, qui, au charpentier, avait un jour désemparé le service en entrecoupant de sanglots dignes du grand cœur d'Ajax son récit de la mort de Charles Albert. Il était réellement redevenu inconsolable, et je dus lui prendre les mains comme un petit enfant, tandis qu'il continuait à répandre avec ses pleurs la moitié de sa moitié de rhum, car c'était le rite, dans les constellations de son gilet de tapisserie. Le même jour, je crois, le nez en l'air, sur un trottoir d'où je l'empêchais de descendre, il me confia sa haine pour toutes ces criminelles voitures qui obligent à faire attention. Or, disait-il, l'attention tue la flânerie. Et en définitive, une persévérance enfantine et lyrique dans la flânerie l'aura tué. Il était imbattable, Follin, sur bien des plans. Outre celui de la poésie, il y avait des choses d'église, argot, liturgie, ornement, et les fromages qu'il consommait Dans certains cas, après en avoir fait énergiquement une grosse bouillie avec du beurre à la pointe de son couteau, c'était pour moi l'occasion de mettre en doute par pure malice l'authenticité de son goût pour les pâtes fortes. Mais au lieu de condescendre alors à une polémique, il braquait son profil cabossé loin du jeune auteur et de sa voix de clairon publiait mon peu d'enthousiasme offensant pour le gris de l'île. À la belle, impeccable jeune femme dont la chevelure et la peau blanche s'imprègnent de tant de troublantes senteurs, j'achète une portion de gris et puis la moitié d'un gris de l'île en souvenir de Follin.
Alors donc, on a dit que l'aspect central de l'œuvre de Jacques Reda est constitué par sa prose poétique sur une errance urbaine, et particulièrement sur la géographie parisienne. Je rappelle que Reda est arrivé à Paris en 1953, il a 24 ans, et il va longtemps habiter le 15e arrondissement à deux adresses successives à Vaugirard, puis il s'installe définitivement à Ménilmontant. Le 15e arrondissement a donc une place certaine, surtout au début de l'œuvre. Or, les murs, un livre principalement en vers, commence par une partie intitulée Le parallèle de Vaugirard, et c'est par là que nous avons commencé la lecture. Mais on y trouve aussi un premier deux vues de Javel, donc les deux vues de Vaugirard, et on a aussi deux vues de Plaisance. Alors, quels sont les quartiers de Paris qui sont privilégiés? Alors, il a parlé de tous les quartiers de Paris, mais certains sont quand même privilégiés. On a le 15e pour la bonne raison qu'il y habite. On aura plus tard Ménilmontant pour la même raison. Mais on a les ruines de Paris, quelques quartiers privilégiés. Et pour le sud de Paris, c'est la Butte aux Cailles. La Butte aux Cailles est un lieu privilégié dans l'imaginaire de Reda. Elle fait son apparition dès le 5e texte des ruines de Paris pour s'affirmer hors les murs avec deux vues de la Butte aux Cailles. Et nous allons écouter deux vues de la Butte aux Cailles dans Hors les murs.
Deux vues de Plaisance.
Non, c'est la Butte aux Cailles. Lecture 6.
Les buts aux cailles.
Un ciel neutre, ce...
Non, au fond, je n'ai pas besoin de cirage.
Pardon. Deux vues de la Butte aux Cailles. Au fond, je n'ai pas besoin de cirage, mais j'entre chez le cordonnier afin de participer un peu à la vie du quartier. Apparemment si douce au printemps quand le jour tombe, comme on dit, alors que s'élève un regard à peine plus sombre dans la lumière, nimbant les gens transfigurés qui vont d'un éventaire à l'autre avec des sacs à provisions. Et des enfants stridents et mous, valdinguant loin derrière. Car une mansuétude sans borne envahit le cœur des mères. Un abandon qui les rend lourdes et les fait s'abattre. Fondre et sourire à rien, sinon à cette ombre de clarté qui s'est faufilée auprès d'elles, en précaire équilibre, entre la butte enténébrée et la nuit pâle qui vibre. Par quelle porte encore entrouverte? Mais vous baissez les yeux, vous parlez d'autre chose et vous ralentissez, au lieu de perdre absolument la tête et cette grande modestie dont la porte a fait preuve elle-même, battant comme on oublie, tandis qu'à votre insu déjà, vous sombrez dans les coins. Et que j'en pense ce tube de cirage dont je n'avais pas besoin. Deuxième vue. Pendu de travers au bec de gaz du passage Vendresanne, qui penche dans la tête de Soutine et fait broncher Van Gogh. Ça bouge en été sous les doigts lumineux des platanes, lavoir, blémure, vélo heureux dans la luzerne. Un fog plus épais qu'à l'ombre du côté d'Elephant and Castle, quand j'errai près d'un pont voûté comme un Porsche infernal, il couve. Si d'aventure vous passez et votre nuit est seule, entrez donc, prenez garde aux marches. Une lueur de fanal au ras de l'esplanade où l'écho d'un bois d'auberge monte avec le cliquetis fantôme des volants des moulins, les frissons des eaux, des roseaux, d'oiseaux du dessous des berges dont le ciel rond comme la montgolfière du vieux Pidâtre est plein. Plus haut, Sainte-Anne de ses clochetons aussi dévots que des crabes. Pâte de la boue d'algues rouges où dort en toute saison Paris. Café, merguez, un long silence et puis on repart l'arabe. Le vent apporte parfois le chant des cygnes de Montsouris. Depuis longtemps, l'enduit des murs a bu les lettres noires. Mais on déchiffre encore. Hôtel, restaurant du bon coin. Autour, un peu d'herbe alchimique se débande. Oh mémoire, souviens-toi des étés. La rue des Espérances n'est pas loin.
Alors après ces deux vues de la butte aux Cailles, donc les ruines de Paris, ce livre présente une vision géographique expansive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il commence par certains lieux du Paris central, la place de la Concorde, puis s'ouvre à des quartiers plus éloignés, Belleville, ou au sud de la poterne des Peupliers, entre la porte d'Italie et la porte de Gentilly, puis il passe à la banlieue, qui sera plus tard le thème d'Hors-les-Murs, et va jusqu'à l'étranger. Les ruines de Paris comprennent deux parties très distinctes. La première concerne effectivement le titre, les ruines de Paris, et la seconde partie commence par un texte dont le titre résume cette seconde partie, puisque la seconde partie a pour titre « Quand on sort de Paris », donc c'est « Hors-les-Murs ». Elle traite de divers lieux, un peu la banlieue, puis les régions limitrophes, Lyon, la Bretagne, puis même l'étranger, avec le Luxembourg et l'Autriche, pays qui ne sont d'ailleurs jamais nommés comme tels. La deuxième moitié de la seconde partie s'intitule, je cite, « Arrêt, buffet, liaison routière » et traite surtout d'un environnement inspirant particulièrement Reda. Les gares, les rails, ce qu'il nomme aussi, je cite, « les reliquats d'une activité ferroviaire ». Il écrit dans les ruines de Paris, je cite, « j'aime les rails, la ferraille, la rouille ». Il existe chez Reda une fascination pour le monde des terrains vagues, des chantiers en travaux, pour les déblais, les ruines, les talus, les tranchées, la boue, les entrepôts, les tunnels, les canaux. Un Paris un peu sauvage. Dès une jungle urbaine, dès le premier texte des ruines de Paris, le voici qui, je cite, entre dans la boue livide d'un chantier qui trépide comme une drague sous ses fanaux. Donc là, on est très loin de la place de la Concorde. Alors justement, je propose la lecture d'un extrait des ruines de Paris. Lecture 7, qui est sur des ruines, ruines de Belleville.
Avançant comme deux glaneurs dans ces ruines aplaties de la rue de Belleville, nous ne cherchons rien, puis nous ramassons n'importe quoi, enfin des châssis de fenêtres, peut-être bien inutilisables, mais presque intacts. Un peu plus loin s'active un concurrent intéressé par des briques de dallage hexagonal dont le prix au mètre carré monte aujourd'hui à près de 80 francs. J'en ai déjà, dit-il, évacué plus de 2 bennes. Et de même une poutre maîtresse en chêne qui a sa pareille encore dans les gravats. Mais les déblayeurs portugais l'ont entamé en faisant réchauffer leur gamelle. Agis par la curiosité ou de légitimes besoins, ils ont en outre fracturé la porte du vieux regard. Autrefois, au rebut, entre deux rangées de garages, ils restent préservés des pelleteuses grâce à une palissade qu'on peut franchir. Maintenant, ce défoncement de la serrure autorise même à descendre. Un escalier conduit jusqu'au petit bassin peu profond où peu d'eau se répercute en cliquetis de clés sous la voûte et ensuite une galerie d'égouts va se perdre dans l'épaisseur. La lueur dispensée d'en haut par la lanterne est de plus en plus faible, car la nuit vient. Alors nous remontons pour embarquer ces fenêtres et quelques poignées de cartes postales. Plusieurs sont adressées à Jeanne ou à Louise Forgeron. Elles datent du début de ce siècle. Signées de prénoms féminins et montrant la belle Georgette, enveloppée de voiles transparents, elles nous semblent équivoques bien que désuètes. Mais sans doute sommes-nous trop savants. D'autres, comme d'habitude, représentent des cathédrales. On trouve ailleurs des cahiers de géographie tenus à la perfection, des débris de jouets, un chien, un rail de chemin de fer mécanique, des trumeaux, et des marqueteries d'un travail très ancien. On voudrait tout sauver, mais ce ne serait que provisoire, au fond de nos caves et encore plus navrant. Du reste, on ne distinguera plus rien de ce naufrage dans 5 minutes. Le rose exténué du ciel résiste sur les toits de zinc, mais déjà les cafés ont éteint autour des petites places et les rues s'engloutissent parmi les remous de leurs acacias.
Alors, comme Follin, Reda ne s'attache pas aux monuments les plus connus, comme le Louvre ou la Tour Eiffel, et plus qu'aux personnes, il s'intéresse à la géographie de la ville. Les personnages sont rares. Il a une certaine prédilection pour les espaces ouverts, où la vue dispose d'un champ d'expansion, place, jardin, public, Père Lachaise aussi un lieu privilégié. Mais en même temps, il existe une tentation inverse, de se ménager un refuge dans des lieux encaissés, pour reprendre son expression, square, impasse. Et quand il voyage à vélo ou en train, les beaux paysages, les monuments des villes ne sont pas vraiment son but. Les espaces qu'il préfère, ce sont toujours les friches et les banlieues populaires, les provinces négligées, les campagnes assoupies. Dans un de ses livres, « Recommandations aux promeneurs » de 1988, Reda écrit « Comme le petit coléoptère, je me déplace d'une manière à la fois hésitante et obstinée, entrecoupée d'arrêts dus à de soudaines et contradictoires attirances, ou à l'effet subi d'un repentir. Et aussi plus loin, il ajoute, je dérive, je flâne, je contourne, j'emprunte des raccourcis qui m'égarent et font durer le plaisir. L'un de ses commentateurs, Jean-Claude Pinson, estimait que, je cite, si le sujet lyrique est bien présent dans l'œuvre de Reda, le rêve qui hante le poète voyageur est cependant de pouvoir s'absenter de lui-même en se fondant dans un paysage. La sérénité, c'est, je continue maintenant à citer Pinson, la sérénité, c'est, chez Reda, adhérer aux instants qui s'offrent et se laisser aller à ce qui nous désapproprie de nous-mêmes. C'est un livre de Pinson qui s'appelle « Habiter en poète », édition Champvallon de 1995. Animé par une constante ébriété lyrique, Jacques Reda est en effet et surtout un itinérant. Je cite « un humble rôdeur du monde connaissable », c'est des citations de Reda, « tour à tour, je cite encore Reda, tour à tour ou ensemble, nuageux, curieux, inquiet, hilar, furibond, tendre, ahuri, et qui ne veut surtout pas tenir en place. » Reda écrit « le désespoir n'existe pas pour l'homme qui marche. Le désespoir n'existe pas pour l'homme qui marche », écrit-il. Un peu trop timbré, trop sensible. Il se décrit ainsi, et il se décrit aussi comme un pigeon, dans toutes sortes de gens en 2007, pendant ironique à l'Alti Albatros de Baudelaire. Donc c'est Paris qui reste son lieu d'élection, le véritable centre de sa géographie poétique. Inscrit dans une lignée poétique, il est à la fois historien rêveur et gardien des mémoires oubliées de la capitale, et aussi dépositaire de sa topographie et de sa toponymie. Son intimité avec Paris lui donne même cette sensation que ce sont, je cite, « les rues elles-mêmes qui se déplacent ». Je continue à le citer dans « La liberté des rues », texte de 1997, donc 20 ans après « Les ruines de Paris ». Je cite « jamais en tout cas je ne me déférai de cette manie invétérée, ni même complètement de l'illusion » qu'un message est contenu dans le grouillement des mots des rues de Paris. Et il disait déjà dans les ruines de Paris cette fois, les rues tergiversent, décrochent, favorisant des angles pour la conversation. Il est, et cette fois je cite Patrick Grinville, un réaliste méticuleux qui bascule dans la méditation, le rêve, l'abstraction, les jeux ciselés du langage. Une assez bonne phrase, je la répète, un réaliste méticuleux, mais qui bascule dans le rêve, et les jeux du langage, la méditation. Jacques Reda vivait la poésie, dit-il, je le cite, en commençant à publier, j'ai cessé d'être poète pour devenir écrivain. Poète, c'est d'abord et avant tout un état. Alors voyons maintenant s'il y a une méthode d'écriture. Reda a plus d'une fois décrit une forme de méthode de déambulation et d'écriture. Ainsi, dès les ruines de Paris, le 15e texte qui inaugure le 3e chapitre nommé « Dans le 12 épaississement du gris », il se met à décrire minutieusement une stèle commémorative au sujet d'un exploit aéronautique du début du 20e siècle, et il avoue alors sa tentation du remplissage. Je cite, donc dans les ruines de Paris. « Ce sont des notes que je prends lorsque je suis en perte de vitesse devant ce genre d'histoire, au fond, qui ne m'intéresse pas trop. J'essaie de m'exalter, peut-être à cause d'une espèce d'avarice. Le souci de ne pas avoir savaté sur tant de trottoirs pour rien. » Donc, dans les ruines de Paris, d'ores et déjà, dans le texte une réflexion sur la manière dont il écrit. Il existe chez lui une tentation de la liste, où la considération devient purement géographique. Ainsi, dans un texte sur Pantin, toujours dans les ruines de Paris, je cite, « Je connais mal Pantin. La rue des Pommiers coupe la longue rue de Candale qui se continue en escalier jusqu'à la commune des Lilas. La rue de Bel Air suit la base de cette butte et, soit par la rue de Bellevue, soit par celle des Panoramas, en ne cessant de monter dur, on atteint au bout de la rue du Garde-Chasse une sorte de belvédère sur l'espace en poussière de craie du Nord. » Donc catalogue, liste, ici, dès les ruines de Paris. La liste est encore au fondement d'un long texte sur la déambulation lié à des achats d'un samedi après-midi dont on a lu ici ensemble des extraits, chaque lieu correspondant à un achat. Je résume. 1. Rue de la Banque, 6 bouteilles de rouge ordinaire. 2. Rue Saint-Honoré, 3 paquets de cigarettes Le Duc à la civette. Plus loin, 4 rue du Bac, 2 cahiers écoliers. 5e, boulevard Raspail, et un exemplaire de leçon de Jacoté, un livre de Saint-Gria. Et là, on tombe sur ce qui a été lu et qui faisait partie de cette espèce de catalogue du lieu. Cette propension au catalogue deviendra de plus en plus manifeste dans certains textes ultérieurs où Reda enchaîne les évocations de telle ou telle rue en suivant un plan de Paris. Dans le supplément du 20e Fatigue, qui s'intitule d'ailleurs, le supplément s'intitule « Supplément à un inventaire lacunaire des rues du 20e arrondissement de Paris », il évoque ces pages descriptives dont il explique le fonctionnement. Je cite « Certains jours de grand froid ou de grosse pluie ou de mollesse invincible dans l'humeur, après bien des essais infructueux pour m'intéresser à autre chose, je reprends un plan de l'arrondissement et de l'une ou l'autre de ces rues que je n'ai pas encore décrites mais que j'ai parcourues. Je m'efforce de retrouver quel souvenir elle m'a laissé. Je travaille de mémoire. » Il y a un travail d'élaboration et je cite « Peut-être ces traces sont-elles plus profondes et significatives que les traits que l'on rapporte un peu trop à chaud sur le papier ?» écrit-il donc dans le 20e « Me fatigue ». L'étape suivante consiste à taper les poèmes à la machine à écrire, et là encore ça se complique. Je le cite « Si vous connaissez quelqu'un qui veut se débarrasser d'une machine à écrire en bon état, faites-moi signe, car depuis un an, j'en ai bien usé 4 ou 5. » Jacques Reda garde ses distances avec les ordinateurs, n'a jamais pris à s'en servir et ne comptait pas s'y mettre. Nous avons maintenant une lecture, Les ruines de Paris, page 171-172, qui est, elle est choisie cette lecture parce que c'est le dernier texte qui commence par « Et pour finir », c'est le dernier texte des ruines de Paris et on voit là le monde du chemin de fer.
Et pour finir, ce compartiment de couchette d'un wagon vide où je m'installe à Saint-Pierre-des-Corps. Il est 2 heures de nuit, mais je ne peux pas dormir. Une dernière fois, j'ai comme un transport au cerveau de vitesse et de solitude, roulant depuis 5 jours. Alors, réemboîté, j'éclate. parce que le monde est vaste, parce que le monde est beau. Des mondes de la Sarthe vaporisés dans l'unisson des anges, à ces fourrés remplis d'ordures et d'eau plus violentes que l'absinthe dans les excavations. La chaleur me ressaisit et la glace du soir subite dans les vallons, quand plus rien n'aurait pu me dévier de ma trajectoire. Et je revois le bord d'une petite route de l'Orne, avec son tank à l'air intact, les trois noms de l'équipage oubliés sur une plaque de cuivre. Mais je leur ai planté dans le canon une salve de coquelicot. De même, oublié le nom du bout où j'achète un autre chapeau de paille. Bonjour madame, ah quel beau temps. Il est midi et je n'ai ni faim ni soif, mais un amour qui croît à mesure que je le rassasie. Les rues de ce trou perdu, comme du maître Argos et Thèbes, se tiennent coites sous le feu du dieu, rapetissant dans les arrière-cours les cœurs des chiens de la volaille. Et le mien maintenant se confond au roulement de la ferraille, aux sables et diamants de la Loire, qui dort nu par-dessus.
Voilà, donc ça c'est le dernier texte des ruines de Paris. Et on y trouve les thèmes d'Orida, le chemin de fer, la solitude, le retour d'une province inconnue, la banlieue déjà qu'on voit au petit matin à travers le train. Jacques Reda donc a arpenté d'innombrables chemins, une dromomanie, pour reprendre son expression, une dromomanie, c'est la manie donc du déplacement, destinée peut-être à trouver l'endroit où enfin s'enraciner. Il dit dans son dernier recueil, le son de l'arbre et du vent, de la sérénité, j'ai fait l'arbre un emblème, comme du vent, celui de la mobilité. Son amour pour la forêt, il prend alors un tour testamentaire dans un poème apaisé, dans le son de l'arbre et du vent. Il est une forêt sans bornes où je voudrais m'enfoncer en mourant, loin de la médecine, qui m'impose pour vivre une foule d'extraits chimiques. J'y prendrai tout doucement racine. Un an avant sa disparition, le Figaro rentrait Jacques Reda chez lui sur les hauteurs de Ménilmontant, où il vivait depuis plus de 30 ans, à l'occasion de la publication donc de ce livre, Le son de l'arbre et du vent. Le poète se souvenait alors de sa première publication en 1952, alors qu'il était magasinier chez Segers et célébrait les tilleuls du jardin de Port-Royal, et il parlait de Paris. En prose, en poésie, que ce soit dans Château des courants d'air, La liberté des rues, Le méridien de Paris, Le citadin, Le 20e me fatigue, ou encore Restons timbrés, Reda n'a cessé de chanter la capitale, depuis la cour de son immeuble, sa fenêtre à Vaugirard, et il nous mène sur les quais de la Seine, l'approche banlieue, le marais Belleville, les arrêts d'autobus. Jacques Reda donnait de la voix aux merles, aux chênes, aux charmes, de grands pins brossés par le vent, je le cite, puisque, je cite, « l'arbre agit en poète inspiré » et que le poète, je cite, « n'est jamais que l'imparfait emblème de l'arbre franchissant en silence le mur qui, dès l'aube des temps, nous a séparés de l'énigme. » Dans ce dernier livre, donc, le poète redécouvre l'arbre. Redécouvert de l'arbre, il le sacralise, s'identifie à lui. « Mon feuillage, ce sont les vers que j'ai signés », écrit-il. « Mon feuillage, ce sont les vers que j'ai signés ». Il recense tous les oiseaux que, s'il devenait arbre, il souhaiterait berger sur ses branches ou ses creux, et notamment le merle, improvisateur de génie, pour le citer. Voilà donc, pour finir, un premier parcours dans l'œuvre, la thématique et l'imaginaire de Jacques Reda. Et je propose pour conclure, si on a le temps, deux lectures, l'une dans Hors les murs, Montparnasse, page 29, et puis un dernier texte, le 20e me fatigue, après bon, je le lirai moi-même au Vélicourt. Alors, donc, lecture 9, le Montparnasse, dans Hors les murs, page 29.
Sur le pont des martyrs qu'un long soleil traverse, je me laisse engourdir par le rythme des trains, Rossanava du rail, épousant la traverse, sans arrivée et sans départ. Je ne m'astreins qu'à regarder la tour dont les sombres élytres reflètent l'or diffus du déclinant phénix. Quel calme! Deux clochards s'en vont avec leurs litres vers les gravats de la rue Vercingétorix. Et le ciel envahi de vagues territoires où transhument sans fin des troupeaux, des tribus, passe avec la solennité des prétoires sur les bâtiments qui n'en sont qu'à leur début, changeant déjà l'espace en zone extraterrestre. Et du coup, c'est très sûr, l'âme des habitants. Même le promeneur à l'allure pédestre sent poindre aux angles droits d'autres mœurs, d'autres temps. Néandertal avait ce rêve dans les moelles quand il faisait jaillir le feu de ses silex. Je crois, moi qui suis doute et qui roule à solex, que ce vieux tas d'os, nous irons aux étoiles.
Alors là, un dernier texte, donc beaucoup plus tardif, de 2004, à la Dogana, qui s'appelle « Le 20e fatigue », et suivi de supplément « Un inventaire lacunaire des rues du 20e arrondissement de Paris ». Et j'en lis un bref extrait qui montre l'aspect catalogue, à un certain moment, qui est important quand, d'une certaine manière, il a plus rien à dire. Alors ça s'appelle « Zone du Surmelin ». Au lieu de poursuivre l'ascension de la maussade et présomptueuse avenue Gambetta, où quelques immeubles qui ne dépareraient pas dans les plus nobles quartiers du 17e perdent un peu de leur contenance entre le mur du Père Lachaise, le flanc de la mairie et l'hôpital Tenon, nous trouverons agréable, à hauteur du métro Pelleport, d'emprunter sur notre droite la rue du Surmelin. Nullement le nom d'une variété de surmulot qui en aurait colonisé les parages, mais celui d'un modeste affluent de la Marne, dont l'eau alimente sans doute en partie nos robinets. On prendra soin de se tenir sur le trottoir de gauche pour mieux observer le côté le moins insignifiant de cette rue qui descend. On verra ainsi éclater la devanture, jaune et vert comme le drapeau brésilien de midi minuit l'épicerie, et les deux magnifiques bananes servant d'enseigne à son fronton. Dès le premier croisement, la rue du Surmelin oblique en direction de la rue Axo. On la quittera presque tout de suite pour s'engager à droite dans la rue de la Duisse, autre affluent de la Marne, car ses évocations de rivière disposent au sentiment poétique et à l'attention qui le nourrit. En vérité, il ne manque plus qu'elle, tant ce quartier semble doucement engourdi au bord de l'eau, d'ailleurs tout proche dans les réservoirs de Ménilmontant et de Charonne, où elle somnole. On rencontrera d'abord un terrain vague qui s'étend contrebas jusque la rue du capitaine Marshall, puis à gauche la villa Perrault, plus décevante que le passage Pereire, etc. etc. Le 20e me fatigue, et d'une certaine manière aussi la lecture du 20e est assez fatigante, mais c'est une manière aussi de savoir toutes les rues, l'une après les autres, toponymie, topographie. Voilà, bon, pour un hommage à Jacques Reda qui nous a quittés l'année dernière et qui a symbolisé et incarné la tradition donc du poète qui déambule et qui déambule particulièrement dans Paris.
Merci beaucoup, c'était. Bravo effectivement pour cette vaste ensemble que vous avez fait, et nous découvrons, enfin moi je découvre en tout cas, je connaissais un tout petit peu le côté jazz, mais je ne connaissais pas du tout le côté scientifique de Jacques Reda, notamment son aspect avec les étoiles, et j'étais particulièrement sensible bien sûr au 20e fatigue, puisque moi-même j'habite du côté du Surmelin et de la rue de la Duisse.
Rue
des Pyrénées. Voilà, donc nous sommes des confrères. Donc en quelque sorte nous sommes des confrères de Jacques Reda. En ce qui concerne, alors d'abord, y a-t-il des questions?
Moi j'en ai une.
Oui.
J'ai entendu parler de Berg tout à l'heure.
Oui. Berg, oui.
Est-ce que j'ai bien entendu pas que vous, sans trop le situer.
C'est ça, a priori.
C'est ça. Est-ce que c'est un personnage important pour
le Berg.
René Vandenberg.
Non, c'est Berg. Berg. Alors, je ne sais pas si c'est Vandenberg, mais en tout cas, c'est Berg.
C'est pas que lui.
Ouais.
Il est mort en 62 à 71 ans. La vérité du Grand Parnasse, c'est lié au surréalisme. Et donc, sûrement très proche.
C'est possible. Mais en quoi il est lié à l'Alsace, Berg? Vandenberg, il est lié à l'Alsace? Parce qu'il lit Berg à l'Alsace.
Mais parce que il a beaucoup circulé.
Ouais.
Parce que d'abord il a commencé en Malaisie avec son oncle qui avait une plantation et puis bon. Alors on n'a pas tous les détails, mais il me semble que ça peut être lui.
Ouais. Et il est lié au jazz aussi, Berg.
Et bien justement, parce que comme la plantation, je pense que dans la plantation de son oncle, il a découvert beaucoup de choses de rythme qui sont très étrangers à l'Europe. Ben, c'est ce qui me semble. Hein.
Bon, c'est intéressant, je vais regarder.
Il était libraire,
je vais marquer Van der Berg.
Van der Berg, oui.
Libraire. Et éditeur aussi. Donc, à mon avis, c'est lui.
Très bien.
Merci.
Très bonne idée.
Très bien.
Très bonne idée.
Alors moi, il y a mille noms qui me sont venus à l'écoute. Et le premier, peut-être, c'est Georges Perec.
Ah oui,
tout de même, l'espèce de catalogue, l'espèce errant sur Urbaine également. Et puis, Hillerel, le fameux dictionnaire des rues de Paris. Jacques Reda n'en fait jamais mention.
Bah, a priori, moi, Reda, je ne connais pas par cœur. Hein.
Bien sûr. Gustave Roux aussi, peut-être. Voilà, donc quelques frères en poésie de
me semble-t-il. Pérez, je connais mal par contre. Oui. Relation avec Pérez. C'est important. C'est obsession des catalogues.
Moi, je l'ai jamais, j'ai jamais vu le mot Pérez dans son œuvre. Peut-être, mais je encore une fois, je suis pas, finalement, je suis un amateur, je suis pas un spécialiste de Reda. Donc, ça a pu m'échapper, mais a priori, je l'ai pas vu.
C'est vrai que c'est
l'important, c'est des lieux, peut-être. Oui, bien sûr, le lieu, l'aspect catalogue.
Oui,
non, mais il me semble que la relation est évidente.
Est-ce un écrivain général, parce qu'on en parle beaucoup comme exemple en poésie, on parle de Reda comme grand poète. Or, je me pose des questions là-dessus, parce que est-il prosateur, il peut être un peu tout. Mais justement, à l'heure actuelle, on a beaucoup de questions sur ce qu'est le poème, étant donné qu'il dérive de tous les côtés. Je pose la question, où se situe Reda? Mais est-ce qu'il se situe justement à un centre qui est, justement, que le poète, tel qu'il est décrit à l'heure actuelle, n'est plus vraiment un poète.
C'est un écrivain multifacétique, puisque s'il a commencé avec la poésie, il a fini par le roman, donc écrivain multifacétique. Et le rapport, cette fois, à la poésie, il a commencé la poésie en vers, il l'abandonne justement avec ce livre « Les ruines de Paris » pour faire des poèmes en prose, dans le style un peu à la suite de Baudelaire, on pourrait dire. Mais cette pratique-là va évoluer, puisque du poème en prose, on va passer justement à la prose poétique, qui est différente, qui est non plus sur 3 pages, comme ici, mais ça peut aller jusqu'à 10 pages, et qui est moins marquée peut-être par les effets stylistiques qu'on attend de la poésie.
Et justement, à l'heure actuelle, c'est vrai, c'est que le poème en prose et la prose poétique sont totalement mêlés. Alors,
ah oui, c'est difficile.
Très sincèrement, j'ai reçu des livres, j'étais honnêtement horrifié en tant que poète, car ce ne sont pas des poèmes, ce sont des textes poétiques, quelquefois très beaux, très poétiques, qui n'ont rien à voir avec le poème en prose, qui est sans doute l'exercice.
Sans doute.
Mais moi, j'en reviendrai, excusez-moi, mais je voudrais quand même le dire, à la racine, parce que vous dites, qu'est-ce que la poésie? Georges Mounet, qui était mon professeur à Aix-en-Provence, a écrit Poésie et Société, un petit livre extraordinaire, dans lequel il me semble qu'il y a une définition qui peut convenir à tout le monde.
Oui, il y en a 50.
Ben, je voudrais terminer, s'il vous plaît. Le langage, c'est la poésie. Et donc, la vitamine, ce que vous venez appeler la vitamine poésie, est plus ou moins concentrée dans le langage Et le degré de concentration absolue, c'est ce qu'on appelle la poésie et non pas le reste. Mais ce degré est plus ou moins
c'est
intense.
C'est un poème, madame Michel. Moi, c'est la poésie, c'est pas le poème. Le poème, justement.
Alors, c'est une forme. C'est une forme.
Bien sûr, il y a un arbre. Ah, il y a un arbre dans lequel, sur la branche, un arbre poésie. Vous savez, moi j'ai lu à peu près 200 livres là-dessus, alors bien sûr que je sais. Il y a un arbre poésie, et dessus, non mais je veux dire, d'accord. Mais
chacun a une position.
Je dis que la branche poème à l'heure actuelle est cassée. C'est tout parce qu'elle existe seulement pour certains écrivains. Et encore une fois, le poème en prose est un exercice les plus difficiles qui soit donné de faire à l'heure actuelle.
C'est vrai, c'est vrai.
Le poème en prose, je ne parle pas de prose poétique. La prose poétique, beaucoup de personnes en font. Même le poème
du côté de l'enfant, il y a beaucoup de poèmes de forme poétique qui ne sont pas des poèmes.
C'est un vaste sujet. C'est une vaste problématique. Alors, on va peut-être en revenir à Jacques Reda.
Oui. Alors, dans le cas de Reda, Reda n'a jamais laissé tomber le vers, puisque, comme on l'a vu à la fin de sa vie, les derniers textes sont soit des alexandrins, soit du 14 pieds. Il a beaucoup développé le 14 pieds et il a beaucoup repris l'alexandrin. Il n'a jamais laissé tomber la poésie au sens de la versification. Ça, il était même très lié à la, il adorait la versification aussi. En dehors donc de tout l'aspect passage, poème en prose, la prose poétique, il y a le Reda versificateur qui adore ça, qui fait de l'alexandrin et qui fait du 14 pieds.
Moi, je publie des poètes, et vous savez, j'en ai un qui écrit un vers, formellement, rimé, rythmé, et qu'on refuse souvent ailleurs, parce qu'on oh, c'est ringard, la poésie d'aujourd'hui. Alors,
il y a toutes sortes de vers. On a une autre question sur ma droite.
J'ai dit que la vitamine poétique est plus ou moins concentrée dans la vers.
On a une autre question. Évidemment. Oui, je vous en prie, madame.
Merci beaucoup pour la citation de Mouna. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'ai l'impression que quand même, on entend des infiltrations congènes qui sont une origine de ces respirations.
Congènes. Infiltration pongienne. On a l'impression d'une piqûre. Oui, d'accord.
À Ponge faisait partie de la famille revendiquée par Reda.
Bien sûr.
C'est
creusé
un peu le débat.
Ponge, voilà, bien sûr. Enfin, il parle plus peut-être de Follin que de Ponge, j'ai l'impression.
Oui, il parle pas de Ponge. Et il en parle une ou deux fois dans ses exercices d'admiration, choses comme ça.
D'accord.
Mais pas. Ponge ne fait pas partie comme Follin à l'intérieur des écrits.
Bien sûr.
Follin devient un sujet de poésie.
Oui,
on l'a vu là, on l'a lu le passage.
Follin, c'est quand même.
Il y a
Messonnier
qui a utilisé la poésie.
Chut, s'il vous plaît, on s'écoute.
Messonnier. De la poésie, c'est pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle fait au corps. Donc,
ce qu'elle fait au corps. Au corps, oui.
Alors, ça peut.
Je vais faire la citation, la dernière.
Oui, on écoute.
C'est Messonnier, le grand poète, qui disait la poésie, ce n'est pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle fait au corps.
Dans les ruines de Paris, assez long. Je vais pas le faire lire, mais il était trop long. Où il est dans une galère, comme on dirait aujourd'hui. Il est avec à côté de son vélo en Bretagne. Il pleut un maximum et il marche pendant des heures. Et il y a les effets donc sur son corps de la déambulation et ça devient le sujet du. ça devient le sujet du poème. Voilà, je ne sais pas si ça peut entrer dans ce que vous disiez. Voilà bien près de 2 heures que je tourne sous la montagne et la pluie ne s'arrête pas. Elle ne s'arrêtera pas, etc. Là, la déambulation, l'aspect physique de la déambulation, son côté pénible, là, en l'occurrence aussi, devient l'un des grands sujets du poème en prose.
Le corps du lecteur aussi. C'est à ça qu'on pense davantage. Ouais. Le lecteur, c'est tout le lecteur de ces poésies. Ouais, comme vous le dites, il y en a qui ne touchent pas.
On est des multiples lecteurs.
Mais oui, autant de lecteurs que de poésie ou de poésie que de lecteurs. Il faudrait revenir à Reda, on va essayer. Oui, alors, on a la vision d'un... On a la vision d'un Reda un peu minéral par ses vues de Paris. Cependant, il termine par la forêt, par l'arbre. C'est un peu paradoxal, peut-être.
Excusez-moi,
on
écoute.
Non, mais je ne sais pas définir.
À tout le monde en même temps, s'il vous plaît, merci.
C'est le plaisir.
Oui, donc je voulais terminer sur cette espèce d'assimilisation à l'arbre, alors qu'il était avant tout minéral, donc dans les rues de Paris. C'est une évolution normale ou bien... Oui, il y a plein d'arbres à Paris, de plus en plus.
Oui, ben il parle des arbres de Port-Royal. Il parle des arbres de Port-Royal.
Oui.
Ce n'est pas des arbres isolés quand même, ce n'est pas des arbres d'une forêt de la campagne.
Sympa le soir.
Oui, oui.
Et puis ça peut être une évolution aussi. Hein.
Une évolution. Et puis donc, on terminera peut-être par cette évocation du merle, qui est le merle chanteur, et peut-être que c'est Reda qui chante pour nous. Merci en tout cas pour cette évocation de Reda et puis pour ce débat. Merci beaucoup.